chômeur, c'est pas un métier.
Qu'est-ce que j'ai trouvé de mieux?
Enquête de cinéma, bienvenue à Radio Galère, c'est reparti pour un tour, une émission ce soir en direct avec Lolo dans le studio, avec nos deux invités qui nous viennent fraîchement de, ou plutôt chaudement de Tunisie, donc Youssef et Ismaël. Je passe sur les noms de famille pour ne pas me planter en termes de prononciation. Bon, alors je peux essayer quand même. Youssef Chabi et Ismaël Lemzi, c'est ça? Alors attends, oui, petit détail quand même. Voilà, je monte vos micros.
Il faut que tu montes le micro. Ouais.
Voilà, donc Ismaël, peut-être j'ai mal prononcé ton nom.
Non, c'est juste que c'est Lemzi, c'est Ismaël à l'envers en fait. Et c'est pas mon nom de famille.
D'accord, bon.
D'accord,
okay.
C'est un jeu d'écriture.
D'accord, nom d'artiste, monsieur.
Okay. Tu as été piégé, Fab.
Ouais, j'ai été piégé.
Tu n'étais pas renseigné avant.
Exactement, bah, c'est bien, c'est comme ça, c'est la surprise. Radio Galère, c'est toujours ça. Hein. On est voilà, en direct. Donc, Lolo, je te laisse les commandes.
Ouais, il y a un son en fond. Tu entends? Je sais pas
ouais,
ce que
c'est. C'est marrant, ouais, attends, t'en fais voir.
C'est un son de western. Ouais, là, tu le montres, là.
Ouais. Bon, je le baisse, alors.
Bah ouais, ouais.
Ok, ça marche.
Ah, mais non, mais c'était un son voulu.
Non, non, c'était pas un son voulu. T'as
d'accord,
raison, c'était
okay.
Un petit fond qui traînait.
Non, mais à la rigueur, c'est très bien, quoi. Bon, alors, bon, déjà, je fais une petite dédicace, là, parce que je sais qu'on sait pas le nombre d'auditeurs qu'on a à cette émission, mais je sais que là, ce soir, il y a quelqu'un qui nous écoute. Donc, je fais une dédicace à Sonia. Gros, gros bisous à Sonia et merci de nous écouter. Elle sera là demain soir aussi. On vous expliquera d'ailleurs à la fin de l'émission ce qui se passera demain soir. Donc, bah, enchanté de vous recevoir.
Merci. De même.
Youssef et Ismaël. Donc, nous, le désir de vous inviter, il est venu d'un film que vous avez projeté en 2013, 14
12.
2012. 12, ok. Donc, c'est bon, là, on est sur les bons... Qui s'appelle Babylone. Voilà, qui a eu le grand prix au FIL, le Festival international de documentaire de Marseille. Et ben, pour commencer l'émission, on se disait que c'était bien un peu de parler de ce film. Qui est, donc, bon, bah, certains auditeurs l'auront peut-être vu et d'autres non. D'ailleurs, s'ils veulent le voir, est-ce comment on peut le voir? Est-ce qu'on peut vous écrire et avoir des liens pour le regarder?
C'est possible.
C'est possible.
Ouais.
Donc voilà, il faut écrire à...
Bah, vous pouvez nous écrire directement, sinon vous écrivez
Ismaël
directement
@exitprod.com.
Voilà, ismaël@exitprod.com si vous voulez voir le film Babylone dont on va un peu parler sur le pourquoi, ses conditions de tournage, l'histoire de la production et tout ça quoi. Donc c'est un film que je vais peut-être vous laisser résumer, c'est-à-dire que c'est un film qui se tourne autour de la frontière entre la Tunisie et la Libye. Et c'est un camp de réfugiés qui a émergé suite au
conflit qu'a connu la Libye, qui connaît toujours la Libye, mais qu'a connu à l'époque la Libye en 2011, donc la guerre civile qui a eu lieu, et énormément de Libyens, mais aussi beaucoup d'émigrés qui travaillaient en Libye, dans différents secteurs, certains, beaucoup d'entre eux dans le secteur du pétrole, ont traversé la frontière, fuyant les conflits, et se sont réfugiés. Et ça crée un camp de réfugiés immense à la frontière, oui.
Oui, un camp de réfugiés immense, quoi. Oui. C'est ça qui est impressionnant.
Le camp de Choucha.
Comment ?
Le camp de Choucha.
Le camp de Choucha, qui a donc émergé dans les années 2000... Le
printemps 2011.
Printemps 2011, et qui a eu une durée de...
D'un an et demi, deux ans à peu près.
D'accord, un an et demi, deux ans. Et donc vous êtes... en Tunisie, plus ou moins au moment où ça se passe, ça, ou comment se passe le désir ou la nécessité d'aller filmer, ou comment ça émerge?
Non, mais vas-y, toi, puisque tu es. C'est toi qui as un peu eu l'idée.
J'étais. Ouais, bon, on a eu. C'est Charles qui avait eu l'idée de d'y aller.
Que le troisième réalisateur?
Non, le troisième réalisateur, c'est Harley Dinsley. Donc il y a Ismaël et moi, et à la réalisation, et Chaouk Eknis qui était à la production avec Arlir Sona. Et Chaouk, il nous a accompagnés aussi sur le camp. Donc on était quatre en fait, donc on était trois réalisateurs plus un producteur. Et comment ça s'est fait? Ça s'est fait en mars 2011, c'était un moment où la Tunisie était encore en plein désordre comme ça. En fait, à l'époque, le peuple réclamait encore la chute du gouvernement de Ben Ali, qui était resté à 90%, même un peu plus, enfin le même depuis la chute du régime. Donc les gens demandaient en fait la chute du gouvernement plus la dissolution du parti. Donc il y avait vraiment des conflits partout dans la rue. C'était même une époque de... Il y avait un couvre-feu, je crois, à l'époque. Oui, voilà. Donc on s'est retrouvés chez Chaouki à l'époque. On avait une bouteille de whisky qu'on a bu en regardant les infos, toute cette actualité. Et puis on s'est dit... Chaouki avait dit vraiment il faudrait... Enfin, on voyait à travers la télévision en fait l'arrivée de tous ces réfugiés qui arrivaient, qui traversaient comme ça les frontières. On voyait une foule immense quoi, traverser des paysages désertiques. Mais on n'avait que l'image de la télévision. Il y avait aussi énormément d'images sur Facebook et tout. Et on s'était dit d'aller voir quoi, de nous-mêmes en fait ce qui se passe là-bas, ce qui se passait là-bas dans le sud. Et Smail nous a rejoints ensuite. Et on a discuté, on a proposé l'idée, qu'il a tout de suite emballé. Et ensuite on a contacté donc Ali, qui a aussi répondu présent. Et deux jours plus tard, on était sur le camp en train d'essayer de voir quel film en fait on voulait faire, quel film allait, est-ce que même il était question de faire un film ou pas.
D'accord, donc vous partez une première fois juste pour un peu voir et décider.
On avait pris des caméras, donc on a pris, on avait deux caméras, un appareil photo et un enregistreur. Et on s'est dit, on prend ce matériel-là et on va voir en fait, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a vraiment l'envie de faire un film, est-ce que. En fait, jusqu'à notre arrivée, l'idée de faire un film n'était pas encore établie. C'est pendant ces premiers temps quoi, d'observation et de compréhension, enfin, qu'il fallait vraiment enfin, digérer ce qu'on voyait d'un coup devant nos yeux, quoi, pour comprendre aussi qu'est-ce qui se jouait exactement dans ce camp de réfugiés, qu'on s'est dit, voilà, là, il pourrait y avoir un film, finalement.
Oui, parce que tout début, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était très instinctif, en fait, comme désir d'aller sur place. Et du coup, on n'avait pas, entre le moment où ce désir est né ou le moment où on est arrivé la première fois sur le camp, il ne s'est même pas passé 48 heures. C'est-à-dire que les choses se sont mises en place assez rapidement. On est parti, on a mis une journée à traverser le pays, puisque enfin, Tunis est au nord et puis la frontière libyenne est au sud, vraiment aux portes du Sahara. Et donc au départ, effectivement, comme chacun de nous faisait des films, etc., on avait pris comme ça... Enfin, nos outils de travail, mais sans vraiment avoir une idée précise d'un film, d'un propos, d'image, etc. On avait des fantasmes, effectivement, chacun commençait un peu à imaginer ce qui éventuellement nous attendait, mais rien ne nous préparait à tourner un film, quoi. C'était vraiment le désir de confronter nos corps à cet espace, à ces gens, enfin, de les rencontrer, d'aller à leur rencontre, et puis si... S'il y a moyen de tourner quelque chose, pourquoi pas, mais sinon ce n'était pas le but premier de notre...
Donc il y a une sorte de nécessité presque physique d'aller sur, ce territoire, là où il y a tous ces gens dans ce contexte-là. Et donc qu'est-ce qui fait que ce désir ou ce truc viscéral, à un moment, se transforme en l'envie, le besoin, la de passer à faire un film? Quel mouvement, on va dire, s'opère?
Je pense que ce qui a été déterminant, c'est la singularité du lieu. En fait. Lorsqu'on est arrivé là-bas, effectivement, il y a des choses qu'on a comme ça imaginées ou fantasmées ou rêvées qu'on a retrouvées, mais c'était quand même un espace très particulier, très singulier, à tout point de vue, au niveau des odeurs, au niveau des couleurs, au niveau des... au niveau du moment, c'était aussi un moment particulier pour nous. Enfin, c'était à peine... Même pas 2 mois après le 14 janvier, c'était un moment, comme l'a dit Youssef, où à Tunis et dans les grandes villes, il y avait encore beaucoup, énormément de tensions, etc., etc. Et là, on se retrouve dans un lieu qui déjà est un non-lieu. Enfin, c'est vraiment pratiquement en plein désert, quoi. On est dans un espace où il y a quelques arbres, quelques animaux et puis il n'y a rien. Et c'était un moment où il y avait la révolution en Tunisie, la révolution en Libye, sauf que à leur frontière, il y avait une sorte de no revolution land ou quelque chose comme ça, vraiment à la marge de ces révolutions, quoi. Et donc tout ça a fait que à un moment, en arrivant là-bas, en dormant là-bas sur place, en rencontrant les gens, enfin les choses sont petit à petit mises en place pour donner un film. Quoi.
Et du coup combien de temps ça vous a pris donc cette immersion un peu dans le camp avant de pouvoir j'allais dire passer vraiment en mode de tournage en fait, enfin si on peut dire ça comme ça, en tous les cas sortir vos caméras et puis comment ça se passe à ce moment-là?
Ça s'est fait un peu chacun enfin à son rythme. Je me rappelle par exemple que l'un de mes premiers souvenirs, c'est quand on est descendu la première fois de voiture, Youssef commençait déjà quelques minutes après à filmer. Il a tout de suite, je pense, enfin, il a tout de suite pris la caméra pour commencer à filmer. Pour moi, c'était un peu plus lent. J'ai pris la caméra la première fois 3 jours plus tard. C'est-à-dire que chacun, les premiers jours, chacun vivait l'expérience à son propre rythme. Enfin, c'était plutôt solitaire. Les premiers jours étaient plutôt solitaires. Puis après, on a commencé un peu à discuter de plus en plus chaque nuit, chaque jour. Enfin, on discutait, on dialoguait énormément avec Raleigh. Notre troisième co-réalisateur. Et puis voilà, au bout de quelques jours, on savait qu'on allait faire un film en fin de compte, que le film était là et qu'il fallait le tourner, quoi.
Et quand vous arrivez, alors là, vous, par exemple, toi tu dis que tu as sorti la caméra rapidement, toi tu mets donc en fait dans cette démarche, c'est déjà quelque chose de collectif, en fait vous êtes déjà dans un truc collectif avec la latitude de chacun voit comment, de son côté, il met l'outil du cinéma dans cet espace-là qui est quand même complexe, on va dire. Et la question que j'ai envie de poser, c'est comment justement... Bon, il y a vos façons différentes de mettre l'outil et de mettre vos corps dans cet espace-là, et comment l'interaction se passe ou se déroule ou se culbute ou se contradit avec cette diversité de, parce que c'est un camp, je sais pas, il y avait combien de personnes
quand on tournait,
des dizaines de milliers presque.
Oui, voilà, il y avait des dizaines, puis avec des structures, soit des structures étatiques, des structures militaires, mais il y a une sorte de complexité sociale, politique, éthique, assez concentrée dans une sorte de non-lieu, donc c'est un endroit où c'est et donc comment ça se passe, voilà, comment ça se déroule, ouais, et puis l'interaction avec tout ça.
Ouais, voilà, comme disait Ismaël, enfin, même si on était, chacun avait on avait une approche un peu solitaire, oui, enfin, on allait chacun se balader avec ou un enregistreur ou les deux caméras autour du camp pour voir en fait ce qui se passe, mais donc ça passait aussi par beaucoup de dialogues. On se disait, voilà, moi j'ai filmé cette telle scène, je pense qu'il peut y avoir quelque chose d'intéressant dedans, et puis en même temps, pendant que nous aussi, on construisait notre film, ce camp-là se construisait et se transformait vraiment de plus en plus en quelque chose de plus systématique. Et cette idée de cité a commencé aussi à émerger pendant que nous, on tournait. Je pense que ça s'est fait aussi d'une manière progressive. Et par exemple, il y a des lieux sur lesquels on est revenu plusieurs fois, comme la mosquée. Voilà, il y a une tente qui a été érigée en mosquée et qui, petit à petit, s'est aussi améliorée. Et on l'a vu la structure déjà s'améliorer, en plus attirer plus de monde, mais aussi les tensions qui se sont mises à naître à l'intérieur du camp, et comment ce camp a fini aussi par lui-même vivre une sorte de révolution en son sein. Et puis, mais le travail collectif se faisait, je pense, à partir du moment aussi où on a décidé que le personnage principal était justement cette ville, quoi, qu'il fallait commencer à raconter son organisation, son système, ses ramifications, et qui la peuple, et qu'est-ce qu'elle devient en fait, est-ce qu'il y a une vie en commun possible dans ce lieu-là. Et je me souviens qu'on avait filmé vraiment ce qui nous croisait, mais je pense que quelque part aussi on avait vraiment ce souci de... Il y avait toujours le film qui était là en fait. Je pense qu'à un moment... Le fil conducteur, et puis aussi l'idée de savoir que c'est un... qu'il faut faire un film à la fin, pas forcément un documentaire pas forcément, je veux dire, quelque chose qui soit totalement pieds et poings liés à la réalité, tu vois, dans un souci de retransmission et de témoignage brut comme ça, mais il y avait aussi l'idée d'organiser au bout d'un moment les événements pour réussir aussi à donner cette atmosphère, quoi, de cité qui commence à naître à l'intérieur du camp.
Et comment ça réagit, les différents protagonistes que vous filmez? Comment ça se passe avec eux?
Ça s'est passé très naturellement.
Ouais, il y a une acceptation assez simple de vos postures et des outils. Mm-hmm. D'accord. Parce qu'il y avait aussi des journalistes.
Il y avait beaucoup d'autres caméras.
Et vu qu'il y avait aussi une autre façon de faire.
Oui, mais on n'était pas habillés pareil que les journalistes. Mm-hmm. On n'avait pas les mêmes caméras.
Ni les mêmes lunettes. Puis,
voilà, enfin, on était vraiment, on se fondait vraiment dans la foule, et les gens commençaient petit à petit, et puis on est resté plus longtemps que les journalistes. Mmh. C'est-à-dire les journalistes, enfin, ils arrivent une, deux, trois journées maximum, puis ils repartent, alors que nous, la première fois, on était resté deux semaines déjà, d'un coup, puis on a refait une autre semaine quelques jours plus tard, mais voilà, les gens commençaient au bout d'un moment à nous reconnaître, quoi, enfin, à nous saluer, à nous dire bonjour. On était en train de filmer, ils passaient, ils nous disaient bonjour, quoi, enfin...
Puis on répondait aussi quand on faisait un film. On disait que la première question, c'était pour quelle chaîne c'est, en fait. Bon, est-ce que ça va passer? Puis notre réponse, c'était non, c'est pas de la télévision, on fait un film. Donc je pense que ça nous plaçait aussi.
Ça crée tout de suite un lien différent, en fait.
D'accord. Ouais. Et les gens, ils vous interrogeaient sur, par exemple, pourquoi vous faites un film ici, pourquoi si? Est-ce que vous avez eu des interactions de ce registre-là où finalement ils étaient plutôt dire bah, c'est chouette, il y a un film qui est fait sur ce truc-là, et voilà.
Moi, j'ai l'impression que lorsqu'on répond que c'est un film qui est fait, l'interaction devient beaucoup plus simple, vraiment beaucoup plus. D'un coup, il y a beaucoup de choses qui tombent, en fait. Parce que aussi, les caméras étaient là pour. Parfois assouvir en tout cas un besoin qu'avaient les gens de vraiment s'exprimer, de dire que voilà, la situation est problématique, il faut venir nous chercher, qu'on ne peut pas rester là. Mais une fois que ça est dit, on n'en trouve plus rien à dire. La caméra, en fait, elle a comblé le besoin, enfin, elle est là, et puis elle ne sert à rien d'autre. Par contre, quand on dit que cette caméra-là est placée dans le cadre d'un tournage de film, je trouve que ça crée des liens beaucoup plus sains, en même temps où les gens discutent plus, et puis ils vont pas forcément... Enfin, vraiment, il va y avoir une interaction moins dirigée, en tout cas.
Oui. Ça débarrasse un peu du diktat de l'actualité, quoi. On n'est plus du tout dans une recherche d'information ou d'actualité, mais plus dans des liens plus
de durée, quoi.
De durée, oui, de compréhension, de dialogue, de...
Avec le souci, bien sûr, toujours donc, de faire un film, c'est ce que tu dis, Youssef. Alors, par rapport à la distance qui est importante dans le film, cette distance par rapport à ce qui se passe, comment ça s'impose, en fait? Est-ce que ça s'impose très vite à vous? Parce que j'imagine que le reste du temps, quand vous passez trois semaines sur place, il y a forcément des discussions politiques qui se jouent aussi avec les réfugiés, le soir dans les tentes, etc. Comment ça s'entremêle, et qu'est-ce qui, à un moment donné, fait que la caméra se pose comme ça et vous vous posez comme ça dans Babylone? Vous pouvez... Je ne sais pas si je suis clair, mais...
Oui, je vois.
Mais vas-y,
Je sais pas, en fait, moi exactement, j'ai une idée, mais je suis pas sûr de encore bien savoir la formuler. Je sais pas trop, mais je pense que, je sais pas, peut-être qu'il faut une certaine froideur, en fait, quand on fait un film, de ne pas complètement tomber dans l'hommage, en fait, ni à la tragédie, ou même à l'être humain qui vit cette tragédie, en fait. Mais ça veut pas dire non plus l'ignorer, mais je trouve que par cette froideur-là, on arrive vraiment à atteindre une sorte de ton juste, tu vois, ni trop, ni pas assez, mais de montrer les choses, de les montrer, en fait, de prendre le temps de les montrer, tu vois, pas forcément...
Tu veux dire ça que je dis, silences, en fait, qui en disent long, en fait
Oui, ou même, je sais pas encore exactement, mais je sais, par froideur, j'ai dit une manière de se placer qui, d'une manière ou d'une autre, fait passer le film avant beaucoup d'autres choses, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, tu vois.
Si, mais ça me fait penser un peu, mais je ne sais pas si je te rejoins, la façon dont Bresson fait ses films.
Oui, voilà, c'est Bresson qui dit qu'il faut faire... Voilà. On ne peut pas aller du chaud pour toucher, au contraire, il faut...
Oui, il faut partir de quelque chose de froid, et puis là, peut-être que nous, on y mettra...
Oui, mais je pense, c'est plus une... Là, ce n'est pas une question d'émotion, mais c'est... Enfin, si, c'en est une, bien sûr, mais... Non, je ne sais pas, dans la distance, ça ne veut pas dire que... La distance, je ne dis pas qu'il faut filmer les gens de loin, au contraire, mais je pense qu'il faut vraiment leur laisser aussi quelque chose, tu vois, de très mystérieux, quoi, de ne pas forcément chercher ni à toucher ou à... tu vois. Oui. C'est, voilà, moi je sais un peu ça, quoi, que dans Babylone, que j'ai peut-être compris plus tard, hein, enfin après, en voyant le film, en repensant à tout ça.
Et est-ce que du coup vous avez réfléchi ouais, à cette question plus profondément après, notamment au niveau du montage, parce que ça prend du coup vachement plus d'importance.
Là, il faut voir...
Ben, un élément important déjà par rapport à la distance, c'est que un paramètre à prendre en compte, c'est qu'on s'est aussi beaucoup, enfin ça, on s'est rejoint très vite là-dessus, on s'est beaucoup laissé aller et transporter par le camp lui-même, par ses changements, par son rythme, par les rencontres qu'on faisait, c'est-à-dire on n'a à aucun moment essayé de plaquer comme ça des idées préconçues, qu'elles soient formelles, politiques, etc., ou esthétiques, sur le film. C'est vraiment un film qui s'est construit et qui n'a pu se construire de cette manière que grâce à la singularité de cette expérience qu'on a vécue. Et il se trouve que ce camp était un camp de transit. C'est-à-dire, les gens, enfin, contrairement au camp palestinien, par exemple, qui existe depuis plus d'un demi-siècle maintenant, c'est un camp qui était dès le départ voué à disparaître à un moment ou à un autre, puisque les gens étaient établis dans ce camp pour en attendre d'être rapatriés dans leur pays ou dans un pays tierce. Et du coup, c'était vraiment un camp traversé, quoi. Enfin, les gens ne s'installaient pas, même si effectivement certaines personnes restaient des semaines, etc. Mais globalement, c'était voilà, il y avait l'idée de mouvement comme ça, de passage, était quelque chose de déterminant, ce qui a joué aussi sur le fait qu'on ne choisisse pas de personnage principal, par exemple. C'est vraiment tout, c'est le camp qui raconte un peu l'histoire de ces personnages. C'est-à-dire que tous ces éléments-là, tous ces partis pris-là, ils sont le fruit de l'expérience qu'on a vécue, c'est-à-dire une expérience de rapport très précaire comme ça, où des gens rencontrent des gens et le lendemain on ne les retrouve plus puisque entre-temps ils sont partis, etc. Donc notre expérience était, on ne pouvait pas vraiment prétendre à développer des liens et complet. Encore moins à les montrer à l'image quand en fait ils n'avaient pas lieu dans ce camp.
Mais même parfois, je trouve il y a des situations qu'on a filmées et qui étaient même de l'ordre de la complicité, tu vois, mais qui étaient en fait trop rares, quoi, et qui déplaçaient un peu le point de vue, vu qu'on tenait vraiment à ce que ce soit le camp, quoi, le personnage principal.
Et là, tu mettais plus en avant une personne si tu prenais ces échanges.
Oui, c'est comme si d'un coup on mettait. Le pied ailleurs, quoi, dans une autre manière, je sais pas, l'image, je pense que voilà, on avait aussi un gros souci de l'image, en faisant ce film là il y avait
un gros
souci, enfin, se dire vraiment comment se poser la question sur comment filmer les choses, vu que c'était une époque où tout était noyé dans l'image, il y avait vraiment un flux d'images incroyable, que ce soit à la télévision ou que ce soit sur les réseaux sociaux. Et je pense que le film est aussi né de ce souci-là, de se dire il y a trop de choses.
Beaucoup de paroles, du coup. Beaucoup de paroles, du coup.
Oui,
beaucoup d'informations.
Beaucoup d'informations aussi,
Oui, c'était un peu... D'accord. Ouais. Et ça, c'est un peu aussi... Donc ça va aussi un peu dans ce sens-là, le choix assez fort de ne pas traduire la plupart des paroles, quoi. Ça va aussi dans cette construction-là, quoi,
Il n'y a aucune parole traduite. Enfin, le film n'est vraiment pas sous-titré.
Oui, voilà. Ouais.
De A à Z. Pardon. Et oui, c'était dans ce souci-là. C'était aussi, je pense, pour créer vraiment quelque chose qui vraiment tient de l'immersion, tu vois, plus de l'immersion que forcément de la compréhension directe.
La sensation.
Oui, il fallait qu'on puisse sentir aussi ce temps, quoi, même l'effleurer, tu vois.
Mais oui, puis c'est...
Et cette incompréhension qui se crée entre les gens.
Ouais, puis ça met, je sais que ça met, moi j'ai trouvé que ça mettait aussi à l'endroit d'une certaine étrangeté, quoi. C'est de, quand on regarde Babylone, il y a une certaine étrangeté qui est éprouvée, quoi, de ses choix forts et qui interroge moi je sais que ça m'a interrogé sur comment je regarde des images. Moi, je veux dire, en regardant ce film, ça m'a interrogé sur comment je regarde des images, quoi. Qu'est-ce que je construis ou comment je me fais déconstruire, quoi. Il y a tout ça qui est très intéressant, quoi, avec le choix de pas traduire et donc de mettre à distance la question du sens. Ouais, je... D'accord, ok.
On pourrait peut-être évoquer du coup la construction du film et comment il a réussi à émerger et du coup savoir comment il a été produit aussi. Parce que bon, ça va nous permettre de rebondir un peu sur le cinéma tunisien d'aujourd'hui. On a eu la chance de recevoir Marc Sialom il y a quelques temps. Lolo, je pense, il y a deux ans.
Il y a deux ans. Ouais.
Il y a deux ans, et donc on avait évoqué bien sûr le cinéma tunisien et puis son époque et en miroir avec aujourd'hui. Et donc c'est particulièrement intéressant aujourd'hui de vous avoir et puis de pouvoir parler un peu du cinéma tunisien aussi aujourd'hui, que vous représentez en tous les cas. Vous représentez pas forcément le cinéma tunisien dans sa globalité, mais en tous les cas, vous êtes la jeune génération du cinéma tunisien quand même. Et donc voilà, donc je vous laisse peut-être pouvoir en parler de cette construction de production, etc.
Eh bien, Babylone, c'était un projet totalement atypique. Enfin, c'est-à-dire que voilà, il y a eu un désir qui nous amenait comme ça à partir à trois réalisateurs et un producteur dans une voiture de location pour éventuellement peut-être tourner un film. Donc c'est vraiment pas une méthode de production habituelle ni classique ni rien du tout. Et je me rappelle très bien qu'à ce moment-là, enfin, on avait récupéré comme ça du matériel à droite et à gauche. Alors ce qu'il faut dire peut-être juste pour situer, c'est que la société, enfin productrice qui s'appelle Exit Production, qui a produit ce film, qui a produit aussi un des films qu'on verra demain au Vidéodrome, existe depuis 2005. Donc elle a un certain parcours, elle a réalisé enfin à ce jour plus d'une quinzaine de films. Mais et à un moment en 2010, elle avait construit au fur et à mesure comme ça enfin une structure assez performante, c'est-à-dire elle avait son matériel de tournage, de post-production, etc. Sauf que le 14 janvier, enfin, le bureau a été attaqué, saccagé et volé par la police, en fait, la nuit du départ de Ben Ali, puisque le bureau, il est à 50 mètres du ministère de l'Intérieur. Enfin, tout ça pour dire qu'un mois et demi plus tard, lorsque l'idée de Babylone est née, on n'avait pas du tout de... Enfin, la société n'avait pas du tout du matériel. Elle avait juste l'envie d'être partie prenante du projet. Donc on avait récupéré comme ça deux caméras, un appareil photo, un enregistreur, un micro. Vraiment, on les avait empruntés quoi, à des amis, etc. Donc ça a commencé comme ça. Il n'y avait vraiment pas de logique de production bien établie. Après, enfin, le montage a duré des mois et des mois, enfin pratiquement un an, etc. Après, des techniciens ont intervenu pour la post-pro de son, etc. Mais gracieusement, enfin, c'est vraiment un très minuscule petit budget, quoi.
Exit, c'est une expérience plutôt unique un peu, non, en Tunisie ou
Oui, c'est une boîte qui est pratiquement unique puisque voilà, elle a été créée en 2005 et là, enfin, très rapidement, elle a installé au milieu des années 2000 toute une nouvelle manière de produire des films, justement en comptant beaucoup sur une collaboration des techniciens, des comédiens, etc. De manière, enfin, le film était produit comme ça de manière plus ou moins collaborative par toutes les personnes qui le faisaient quelque part. Et voilà, c'était totalement nouveau à ce moment-là. Ça permettait de se libérer totalement des subventions de l'État, puisqu'en Tunisie, l'État a le monopole des sources de financement du cinéma. À part l'État, on n'a aucune possibilité de fonds, ni des régions, ni d'institutions privées, etc. etc. Il n'y a que l'État qui subventionne le cinéma. Et avec le numérique, avec voilà, des nouveaux venus qui arrivaient au milieu des années 2000, enfin, qui sont nés, enfin, qui ont commencé à faire du cinéma avec numérique, du coup, ça amoindrissait les coûts de production. Ils ont commencé comme ça à créer des manières complètement marginales de faire des films. Et puis, certains même sans autorisation de tournage, ce qui était un peu délicat à ce moment-là, puisque enfin, c'était hyper fliqué, on risquait de perdre son matériel, de passer la nuit au poste. Mais certains commençaient voilà, avec la légèreté du matériel, les coûts de production
Quand tu dis Ismaël, c'est qui en fait? C'est-à-dire c'est des potes que vous connaissiez déjà des
oui,
gens
c'est, ou... enfin des potes ou pas des potes. Enfin c'est ouais. toutes, enfin voilà, des dizaines de personnes qui à un moment arrivent au milieu des années 2000 grâce au numérique, mais grâce aussi au fait que il y avait pas de comment dire d'établissement de supérieur d'études, enfin qui donnait des cours de cinéma en Tunisie.
Il y avait pas d'école de cinéma.
Non, il y avait pas d'école de cinéma à un moment, enfin dans les années 90 du coup. Avant ça, généralement, les cinéastes tunisiens partaient faire leurs études de cinéma à l'étranger.
D'accord.
Du coup, ça voulait dire enfin, une certaine catégorie sociale. C'est-à-dire, enfin, pas tout le monde pouvait s'offrir des études de cinéma à Paris ou à Bruxelles, quoi. Du coup, enfin, le cinéma tunisien a été très embourgeoisé jusqu'à il y a récemment, jusqu'au début des années 2000, où justement, de nouveau venus, enfin, ils étaient jeunes, mais je dis nouveau justement parce que même leur profil enfin, social, etc., ils commençaient à changer un peu le... la sociologie du cinéma, quoi. C'était pas des bourgeois des grandes villes, quoi. Des gens arrivaient, commençaient à arriver de l'intérieur du pays, des classes populaires, etc., etc. Et donc tout ça commençait à se chambouler à ce moment-là. Et Exit était parmi les structures les plus actives. Elle produisait énormément de ces gens-là. Enfin, mis à part des réalisateurs, il y a beaucoup de techniciens qui tournent autour de la boîte aussi, des chefs opérateurs, des ingénieurs du son, enfin, etc., etc. Donc c'était comme ça une boîte qui rassemblait un peu toutes ces énergies nouvelles et qui, contrairement à certaines autres boîtes, par exemple, qui lui ressemblent au niveau de la production, etc., la singularité aussi d'Exit, c'est qu'elle... Elle ne produit que du cinéma, déjà, ce qui est très particulier puisque le cinéma ne fait pas du tout vivre. Du coup, généralement, les gens, les boîtes, elles travaillent pour le cinéma, mais aussi beaucoup pour la télé, pour la pub, etc., etc. Mmh. Et ça, c'est un parti pris d'Exit de ne pas du tout faire ni de pub ni de télé au niveau de la production. Et puis, d'encourager un cinéma très radical, très à la marche, très singulier, très difficile, très... Voilà, qu'il soit esthétiquement, formellement ou bien politiquement. C'est ça les deux choses qui la distinguent un peu. Et puis la troisième chose, c'est qu'elle s'est pérennisée. Enfin, oui. Là, enfin, cette année, elle fête ses 10 ans. En même temps, c'est l'année où elle a produit son premier long métrage de fiction qui est en montage en ce moment, etc., etc. Donc, c'est aussi une société, contrairement à certaines autres, qui a continué comme ça dans le temps, quoi.
Mais donc c'est une société qui, d'un point de vue de son organisation sociale, a quelque chose de collectif aussi. Comment?
Non, pas vraiment. Non, pas vraiment, puisque enfin elle a des la loi tunisienne est assez stricte et perméable sur certains points. Donc enfin la structure c'est une société en fait.
Oui, c'est une société
donc elle obéit aux règles de toute société commerciale, quoi. Donc elle a des actionnaires, trois en l'occurrence, Ali et moi-même. Mais ça c'est la structure. Après pour les films, c'est d'autres façons de nous organiser pour
pour les films, comment ça se passe cette organisation?
Ça dépend des projets en fait.
Ça dépend
vraiment des projets. Là par exemple pour le long métrage qu'on est en train d'autoproduire. C'est une sorte de collaboration entre plusieurs structures, justement, entre plusieurs sociétés de production qui, si elles étaient toutes seules, si on était tout seul, on aurait eu beaucoup plus de mal à monter ce projet de long métrage de fiction. Mais là, on a réussi à nous entourer de trois autres sociétés.
D'accord.
Ce qui a permis de pouvoir tourner le film, quoi.
Et des sociétés qui se situent en Tunisie ou hors Tunisie?
Non, en Tunisienne. Trois sociétés tunisiennes, enfin, qui ressemblent un peu... Enfin, c'est des sociétés émergentes, enfin, ouvertes par des jeunes techniciens, etc., etc.
D'accord, ok.
Donc, qui ressemblent un peu à l'esprit d'Exit. Et on s'est mis à quatre pour produire ce film.
Donc, il y a beaucoup de collaborations
qui
se font...
Oui, avec les techniciens,
comme
les comédiens...
aussi de
faire des films, surtout. Avec un souci de transmission aussi, parce que vous évoquiez le fait qu'il n'y ait pas d'école de cinéma en Tunisie. Et donc,
non, il n'y en avait pas.
Il n'y en avait pas dans les années 90.
Dans les années 90. Après, il y en a plusieurs qui ont ouvert au début des années 2000, puisque l'État s'est retrouvé avec des centaines de milliers de bacheliers chaque année. Il fallait diversifier un peu l'offre universitaire, quoi. Et du coup, il y a eu plein d'écoles de cinéma qui ont émergé à ce moment-là.
Ah ouais. D'accord. Donc
ce qui a donné, justement, c'est ce qui a permis à des gens qui n'avaient pas accès aux études de cinéma pour des raisons économiques et financières d'avoir accès à des écoles étatiques de cinéma.
Mais pour remettre un pied dedans, donc on n'est pas du tout dans une histoire de coopérative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange de, réellement de savoir, mais de mise en commun quand même de savoir-faire quand même, parce que tu dis qu'il y a des techniciens qui viennent, mais du coup ils sont formés où et comment en fait ces techniciens?
Bah la majeure partie d'entre eux sont formés dans les écoles tunisiennes. Mais certains enfin commencent leur cursus en Tunisie et le terminent à Bruxelles ou à Paris, etc. D'autres enfin n'évoluent pas beaucoup enfin dans le milieu économique, mais tout de suite après enfin font des films, ouvrent des boîtes, comme Ali par exemple, enfin celui qui a créé Exit. Il a fait 3 années d'études à Tunis et après son diplôme il a ouvert la boîte. Enfin il voulait tout de suite faire des films, quoi. Donc ça dépend aussi des envies de chacun. Certains font des études assez longues ou bien partent ailleurs ou bien enfin font beaucoup de stages, travaillent beaucoup dans la pub, dans la télé, mais d'autres font tout de suite des films avec les moyens du bord et puis essayer d'en vivre. C'est difficile, mais ils essaient.
Pardon, du coup, est-ce qu'il existe en Tunisie des formes encore plus légères, j'allais dire, justement, type coopérative ou de cinéastes qui se regroupent et mettent en commun des... ou pas du tout?
Non, il y a des expériences. Enfin, historiquement, il y a une institution très connue, mais du coup, c'est une grande institution. Donc, au bout d'un moment, elle commence à poser problème. C'est la Fédération tunisienne des cinéastes amateurs. C'est une... Elle est très, enfin, c'est une institution qui date des années 60, qui dans les années 70 était très très importante, puis qui a commencé un peu à péricliter dans les années 80. Elle existe toujours et c'est du cinéma non professionnel ou amateur. Enfin, ils ont du mal un peu à trouver le terme exact eux-mêmes, mais en tout cas, voilà, c'est une institution, une structure qui a rassemblé pas mal quand même de aussi de cinéastes, de techniciens. Oui, il y a les cinéclubs, mais ils font pas de films, quoi. Après, enfin, ce qu'il y a aussi, ce qui se passe, c'est que, enfin, même si ça a commencé à émerger relativement avant la révolution, mais c'est vrai que les 5 dernières années, il y a eu des expériences comme ça, collaboratives, des espaces qui ont ouvert, qui ont un fonctionnement plus collaboratif, etc., etc. Mais c'est une culture qui n'est pas très implanté en fait politiquement et socialement en Tunisie. D'accord. Comme les squats par exemple, on pose tout le temps la question des squats et enfin la réponse est que ça n'existe pas, quoi. C'est pas imprégné dans la culture, quoi.
Oui, c'est plus une question d'histoire que de, parce qu'il y aurait des logements ou il y aurait des possibilités, mais c'est plus une question d'imprégnation dans l'histoire du pays, quoi.
Exactement.
Est-ce que vous avez, enfin j'ai envie de vous poser une question à tous les deux, pourquoi vous faites du cinéma l'un et l'autre? En fait, si vous, je sais pas, pour entendre vos.
C'est les questions pièges quand on arrive à la moitié de l'heure et demie. On en a plein comme ça.
Bah, je dirais pour.
Alors Ismaël, ouais.
Pour vivre.
C'est-à-dire pour vivre, pour manger ou pas?
Non, pas pour manger.
Non.
Pour vivre vraiment.
Ouais. Bah oui, je pense que moi je sais pas encore pourquoi j'en fais, donc je continue à en faire en espérant qu'un jour ça va me parce que si je sais exactement ce que je cherche là-dedans, ce qui me plaît énormément là-dedans, c'est le champ de recherche qui est infini en fait là-dedans.
Et par exemple, moi je sais que quand c'est des gens que vous filmez, que c'est ces gens-là qui vous demandent pourquoi tu fais ce film. C'est quoi que comment vous vous positionnez?
On me l'a jamais posé.
On te l'a jamais posé?
Non, cette question, ouais. On me l'a jamais posé, mais
parce que je trouve que c'est une question qui est pas. Moi, je sais que moi, j'arrive jamais vraiment non plus à. J'ai du mal à y répondre d'un point de vue.
Mais je pense que tout dépend aussi du moment, de la personne qui te pose la question, du projet en lui-même.
Oui, bien sûr. Oui, tu as tout le contexte. Mais même
chaque projet est un désir différent de l'autre, je pense. C'est comme les personnes qu'on rencontre, les amis ou les amants qu'on rencontre. Chacun avec sa singularité propre, il donne un sens différent à, à la relation comme le film. Enfin, chaque film a sa vérité, sa logique, son univers. Quoi. Donc la réponse, elle n'est pas...
Oui, elle n'est pas figée. Quoi.
Elle n'est pas figée, ouais.
Ouais, mais elle est toujours délicate à demander même. Tu vois, aussi, quelle qu'elle soit la réponse, moi je sais que c'est une question qui me met toujours en abîme quand même de dire... J'ai toujours peur de... Puis je trouve que c'est une question qui m'a encore plus habité ces derniers temps. Avec ces... Je veux dire qu'il y a beaucoup de films, il y a beaucoup de cinéastes, et même si c'est dur de faire des films, ça n'empêche qu'il y en a beaucoup de films. Et des fois, ça, moi, je sais que ça me met dans... Et voilà, quoi, que tu... Une fois, tu vas faire des films, et il y a déjà eu des films là, où il y a déjà eu... Et des fois, moi, c'est... Ça, je sais que ces derniers temps, ça m'a créé une sorte de fragilité, parce que des fois j'ai l'impression que c'est... Et à la fois je me dis que c'est bien, mais c'est très désuet des fois la question de ce que je fais en faisant des films, quoi. Tu vois qu'il y a un endroit, il y a quelque chose de... qui est très fragile, quoi. Mais à la fois qui est beau par sa fragilité, moi, qui est...
Mais j'entends. En fait, mais tu vois, moi ce que je pense que l'idée du désuet aussi, c'est de... En fait, rien ne tient du direct dans le cinéma. C'est ça aussi ce qui est intéressant. Enfin, je trouve... Enfin, savoir ce que vraiment... Pourquoi on a fait ce film immédiatement après l'avoir fait, ou dans les semaines ou les mois, je pense que c'est plutôt quelque chose qui s'observe sur... Enfin, plus tard, vraiment bien plus tard, tu vois. C'est ça aussi ce qui est intéressant, je trouve, avec le cinéma, c'est que c'est quelque chose qui arrive à vraiment imposer un rythme aux choses, tu vois, un rythme au monde, en fait. Qui n'appartient qu'au celui du cinéma, donc c'est pour ça qu'un film se fait et revu, tu vois. Je pense que voilà, à travers les années, il trimballe toujours des réponses, tu vois, un film.
Oui. Non, mais c'est clair. Ouais. Mais justement, par rapport à la, là, vous avez fait dernièrement, là, il y a deux jours, un ciné-concert au Mucem, là, avec votre film Babylone, et donc je vais vous poser la question de... Qu'est-ce qui vous a amené à faire un ciné-concert? Mais en tout cas, moi, je sais que c'est le fait de voir des formes qui émergent, moi, ça me fait réfléchir en me disant qu'il y a quelque chose qui d'une insatisfaction dans la façon dont les films sont montrés. Quoi. Moi, je sais que c'est ça que ça m'a amené à réfléchir. Après, je ne sais pas, vous, ce qui vous a amené. Et donc, je vous demande, qu'est-ce qui vous a amené à mettre Babylone en ciné-concert?
Bah pareil, plusieurs comme ça, petites choses qui se sont accumulées au fur et à mesure, dont la principale peut-être est que il n'y a pas de musique dans le film, c'est-à-dire il n'y a pas de musique composée spécialement pour le film, mais c'est un film très musical par sa bande son, par son rythme, par son univers, par le bruit du vent comme ça incessant tout le long du film. Et donc il y a aussi beaucoup de musique qui sont chantées par les personnes. Il y a une scène de concert, mais il n'y a pas eu de musique composée pour le film. Et on connaissait Ziyech qui a fait du coup le ciné-concert, qui a composé des musiques d'autres films produits par la boîte. Et je ne sais pas, c'était une envie, je crois, de se débarrasser un peu de cet objet, quoi, de le passer à quelqu'un d'autre et de découvrir ce qu'il pourrait éventuellement émerger. Et c'est une expérience complètement différente. Enfin, chaque fois que je vois un ciné-concert, j'en ai vu quatre. Et c'est une expérience complètement différente de celle de la vision du film, quoi. Enfin, c'est complètement
un autre univers,
ouais. Enfin, un autre... un autre phénomène, je dirais.
Alors, j'ai une question à vous poser, une nouvelle. Vous avez grandi tous les deux en Tunisie, donc, c'est ça. Ça m'intéresse de savoir à quel endroit vous... ou à quel moment, qu'est-ce qui vous fait vous pencher vers l'image, l'image et le son, le cinéma? Comment ça émerge? Vous êtes de Tunis tous les deux ou pas, en fait?
Ouais, moi j'ai grandi à Tunis, ouais, à l'Arena.
Moi je suis de Tunis aussi.
Comment vous découvrez le cinéma et ce désir-là à ce moment-là?
Moi j'ai pas vécu toute ma vie en Tunisie. Là ça fait, j'ai quitté la Tunisie, j'avais 18 ans. Là ça fait 14 ans que je suis en France. Donc voilà, ça commence dangereusement s'équilibrer. Et donc du coup, j'ai découvert le cinéma. Non, en Tunisie quand même. Les premières fois, c'était vraiment à travers les vidéoclubs, quoi. Enfin, à travers les vidéoclubs. Il y avait un vidéoclub pas loin du lycée où j'étais.
Tu te souviens des premiers films que tu as vus ou pas?
Je me souviens du nom du vidéoclub, ça s'appelle Mauvais Sang. Et que ça existe toujours.
C'est le nom d'un film, ça, Mauvais Sang.
Carax,
ouais, voilà. Ouais.
Mais les premiers films que j'ai dû voir, je sais pas, je pense que je prenais tous les films avec De Niro et Al Pacino, enfin, des choses comme ça. Puis non, mais vraiment, c'était très très bien en fait d'avoir ce vidéoclub juste à côté du lycée parce qu'on prenait absolument tout. Puis c'est bien sûr des choses que tu croises comme ça en regardant des films. Puis plus tard, on te parle d'auteurs et tu recroises des films que tu as vus quand tu avais 14 ans, des choses comme ça. Donc, mais ensuite, oui, moi, j'ai continué mes études en France. Mais toujours, j'ai toujours eu envie de tourner en Tunisie, en fait. Enfin, dès le début, quoi. Enfin, les toutes premières choses que j'ai imaginées ou écrites se passaient là-bas. Ça continue. Ça continue vraiment comme ça. Donc, je ne sais pas exactement à quel moment ça a émergé. Je pense que c'est aussi en n'étant pas tout le temps en Tunisie et en y revenant de temps en... Enfin, en y revenant, en fait, c'est là où j'ai vraiment aussi compris quoi, le potentiel cinématographique d'une ville comme Tunis, de paysages de la Tunisie, d'histoire, quoi, de visage. Enfin, comme ça, par un aller-retour, quoi, c'est ça.
Et moi, c'est avec mon père, tout simplement. Mais pareil, à travers les vidéoclubs, il était abonné dans les années 80 à un vidéoclub. Et on avait un magnétoscope VHS. Et il regardait un ou deux films par jour. Et je me rappelle, aussi loin que je me souvienne, il me mettait à côté de lui pour regarder des films. Alors généralement, c'était des séries B américaines, des films d'action, des films d'horreur, des choses comme ça. Mais... Et l'anecdote, c'est que je me rappelle que lorsqu'il y avait une scène comme ça, violente, ou une scène de sexe, etc., il mettait sa main sur mes yeux pour m'empêcher de regarder, puisque j'avais 4, 5, 6 ans. Et au bout d'un moment, ça a créé chez moi un phénomène assez particulier, c'est que ça m'a rendu sensible au sang. Et le sang a fait que lorsqu'il mettait sa main sur mes yeux, je commençais de plus en plus à imaginer ce qu'il pouvait y avoir. Quoi. Et avec le temps, c'est devenu systématique. Quoi. Enfin, à travers le sang, je commence comme ça à mettre des images sur ces parties qu'il me cachait. Je pense que ça vient de là. Quoi. Enfin, et même aujourd'hui, lorsque je lis un roman, par exemple, je le mets tout de suite en image. Quoi. Enfin, je lis et j'ai des images qui me viennent comme ça, de plans, de mouvements de caméra, etc. etc. Et je pense que c'est venu de là. C'est venu de là.
Je vous propose une petite pause break
musicale.
Qu'est-ce qu'on envoie, les gars?
Donc, je crois que le premier morceau, c'est un morceau qui doit s'appeler Black Unit.
Ouais.
Je présente le morceau en deux mots. Ouais, c'est un travail qui a été fait, donc encadré par Ziad Hamrouni, qui a aussi fait le ciné-concert là, qui a été programmé samedi dernier au Mucem. Et donc c'est un travail qu'il a fait avec des jeunes rappeurs de Erdaif, qui est une ville du sud de la Tunisie. Donc voilà, c'est un travail qu'il a fait là-bas avec des rappeurs là-bas et aussi des musiciens de la région.
D'accord, et ben c'est parti, on vous retrouve dans 4 minutes.
Tafra, nik zat la wafra, hot fi ras kwaqa. رجال ما يحبوا الحقرة ما يحبوا الدوني زوا ولا راضي أبلا قليل عمي فاك ماني هنعيش مع الظروف في بلاصة ساش ما تعطي شي برنا تعبنا الفمي ديما الفقر علينا الشمي ديما الريفلون باريفات وايكم تو ميهود نعم فقرنا فستوم شبعتونا بالوعود أسبونا يهود عيون أمي ما علينا تادم مع كثير الحقر والقامعة وش عالمانعة مخ تعفنة شبع من لغة الخشبة بسام بكمة والروح صرفت عالجسدة الذب يتحكم اطباع شاهة للأسدة الشعب راعوا فدة من وعود بلا مددة رقصة عيشة بعد بالها في السواري دولة ريشة دين عباد وشرة عالي بلاد الكسمة منا أسياد منا عبي بلاد الزولة زون زون طبطوا الحرية عطوكم جوكا وباركي زون زون حربوا المسطور ضيع فيها طور طور اكلوا لك حقك شبوا عليك لون لون جبتوا انتفاضة عطوكم بالكامي زون زون طبطوا الحرية عطوكم جوكا وكوزا كور كور حربوا المسطور ضيع فيها طور طور اكلوا لك حقك شبوا عليك لون لون
Alors, c'est reparti donc, dans les studios de Radio Galère pour la suite de notre émission. Voilà, tout le monde revient. Petite pause clope nécessaire pour les addicts. Allez, le temps de s'installer, de reprendre les micros. Ismaël, t'es déjà opé.
Je suis le premier.
Voilà, on attend les deux autres. Bon, bah, Ismaël, tu peux enchaîner. Hein. Ils arrivent. On peut, les blancs, c'est autorisé aussi, quoi. C'est, y a pas de blême.
Le silence est aussi une musique.
Exactement. Voilà, silence de Babylone.
Bonjour.
Salut. C'est. On attend le père Lolo. C'est parti. Waouh, c'est la première fois qu'on se le fait, celle-là.
Bon, on en était où là? Ah oui, si, moi, il y avait une question que je voulais, j'avais dans la tête pour revenir au film Babylone. C'est donc, il a été pas mal projeté. Et quelles sont les différentes réactions qu'il y a eu vis-à-vis de la réception? Sûrement en fonction de différents contextes aussi, mais juste pour savoir un peu les écarts, les différences, les comment ça.
Vas-y. Bah, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est un. Bon, le film est plutôt bien accueilli, moi je trouve, même s'il y a eu pas mal de séances où les gens sont sortis de la salle, des choses comme ça, mais finalement avec les gens qui restent, il y a chaque fois des questions intéressantes qui sont soulevées. Au début, les premières questions, c'est est-ce que vous pouvez nous reparler du contexte du tournage, qu'est-ce qui s'est passé, l'actualité. Enfin, il y a toujours ce besoin d'associer tout ce qu'on a vu en fait à une réalité qui est, enfin une explication qui viendrait du réel, quoi, de l'actualité. Mais ensuite, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, voilà, le choix de ne pas avoir sous-titré le film crée vraiment discussion, enfin crée débat, crée. Les gens aussi comprennent très vite que c'est un film qui se positionne à l'encontre aussi de l'image médiatique, tu vois, vraiment contre ça. Et, Non, mais voilà, comme tu disais, ça dépend des contextes. Il y a des, on nous demande aussi très, très, très souvent pourquoi il n'y a pas de femmes, par exemple, sur le camp. C'est une des premières questions
C'est la question la plus
posée. C'est la question la plus posée, oui. Ouais, c'est vraiment la question la plus posée. Et donc, on y répond. Ouais. Non, mais tout simplement parce que les réfugiés étaient majoritairement des hommes, des jeunes célibataires, en fait, qui venaient travailler, qui travaillaient en Libye, en fait, et qui, ou envoyaient de l'argent à leur famille, restaient au pays, ou sinon... étaient tout simplement pas liés, c'était des célibataires quoi, qui travaillaient seuls. Et aussi les quelques familles qui ont passé la frontière et qui ont compté parmi les réfugiés étaient très rapidement ou emmenées ailleurs, ou sinon en fait on leur réservait un petit espace sur le camp. Il y avait quelques femmes sur le camp, mais vraiment très peu, elles restaient autour du périmètre de leur tente. Mais ensuite, il y a eu plein de choses que nous, on n'a pas pu filmer aussi. Enfin, par exemple, le camp a perduré un peu. Quand nous, on a terminé, quand on a estimé que le tournage du film était terminé, le camp avait continué un peu. Puis il y a eu des mariages sur le camp. Il y a eu une vie vraiment qui a fini par s'installer aussi, quoi.
D'accord. Et alors, pour revenir à la question des questions, est-ce qu'il y a des questions qui ont interrogé assez fortement votre position de cinéaste? Ou quel genre de questions? Est-ce qu'il y en a qui sont situés à ces endroits-là?
Oui, forcément. Et puis, celle du point de vue, justement, de la distance, etc. Ouais. Ça, c'est une question aussi qui revient. Enfin, parfois, de manière violente, on nous accuse de froideur totale par rapport à... Voilà, une sorte de déshumanisation comme ça. Mais ce qui n'est pas vrai, enfin, d'après moi. Enfin, dans le film, on n'est pas.
Alors, comment tu. Donc, tu dis que c'est pas vrai, et comment tu interprètes, ou qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le fait qu'une personne peut ressentir ça? Qu'est-ce que ça vous fait dire, vous, en tant que cinéaste? Parce que vous, en tant que cinéaste, c'est un film que vous assumez, donc c'est pas ça que vous n'êtes pas mis à cet endroit-là.
Bah, je pense que c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le règne de l'information, quoi. C'est-à-dire que les gens, enfin, surtout dans le cinéma documentaire, plus que la fiction d'ailleurs, et surtout lorsque, a priori, il y a un sujet comme ça... Enfin,
mais plus social, on va dire.
Oui, géopolitique, oui. Ou bien qui fait l'actualité, en tout cas, à ce moment-là, ouais. ça faisait l'actualité, les révolutions, les réfugiés, etc., etc., tout ce bouillonnement...
Qui fait l'actualité depuis plusieurs années, on pourrait dire.
Voilà, exactement. Les gens ont tendance à s'attendre à une... à des réponses, quoi, enfin, à des informations, à des sentiments peut-être exacerbés comme ça, ou à des témoignages, en tout cas, au minimum.
Dans le sens de pouvoir attraper quelque chose, de pouvoir s'identifier, de pouvoir...
Peut-être, oui, peut-être. C'est aussi juste peut-être un besoin qui a été, enfin, qui est créé par la télévision, tout ça, par les médias, quoi, qui nous abreuvent comme ça d'informations en continu. D'ailleurs, on parle d'informations en continu. Et puis on n'a pas le temps de se distancer justement de ces informations, de l'événement. Et nous, on était dans une posture complètement différente, quoi. On voulait prendre notre temps, on voulait regarder au-delà de cette image ou de ce rapport totalement médiatique et puis informatif sur l'événement. Et je pense que c'est le propre du cinéma de pouvoir de permettre ça.
Oui,
c'est aussi l'outil qui... Non, mais juste, c'est, enfin, on n'écrit pas... Enfin, en tant que cinéaste, on n'écrit pas un article, quoi. Enfin, on fait un film.
Mais sans profiter de... Enfin, sans être informatif, est-ce qu'il y a pu avoir des personnes qui vous ont dit, par exemple, le sentiment d'avoir profité de cette situation-là pour, à un moment donné, poser votre caméra et vis-à-vis de cette distance, justement. Et d'avoir ce regard, j'allais dire, pas voyeuriste, mais quelque part, justement, cette distance, elle peut être mal comprise.
Oui.
Et pourtant, vous en faites un vrai choix, quoi. Donc, du coup, à quel endroit... mais ça, je vous laisse y répondre. C'est pas moi qui vais le
qui vais le dire ou donner mon avis là-dessus, mais j'ai plus envie de vous entendre sur l'espace qui est laissé dans ce film à ce qui se passe et à la possibilité de se créer son propre espace ou non en tant que spectateur dans ce film sans enfermer le propos politique ou votre posture. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce que, ben vous, qu'est-ce que vous pensez de ça et de votre de voilà, l'endroit où vous filmez, où vous êtes et quel espace.
Bah, je pense que le souci qui a été vraiment principal lorsqu'on a abordé ce film et même qui s'est posé par la suite à la question du montage, c'est où est le film et son rapport au réel, à ce qui s'est vraiment déroulé et ce qu'ont vécu toutes ces personnes qui se sont réfugiées dans le sud tunisien. Et ça, c'est deux questions parallèles qui, je pense, ont fait un long chemin ensemble pendant toute la création du projet, en fait. Maintenant, ce qui est intéressant, moi, par rapport à cette distance, j'ai l'impression que finalement, ce qui se joue, en fait, c'est même parce que là, on déshabille le camp d'un certain contexte géopolitique qui était très très donc bouillonnant à l'époque. Il y a vraiment cette volonté aussi de ne pas parler de la tragédie qui s'est déroulée. Enfin, on ne voit pas de réfugiés discuter de ce qu'ils ont vu là-bas, de ce qu'ils ont vécu en fait pendant leur ce qu'ils ont vécu s'ils venaient de Tripoli par exemple, la traversée qu'ils amenaient jusqu'en Tunisie. On ne voit pas ça parce que je pense que d'une certaine manière, c'est ce genre de situation aussi qui se vivent dans le drame et dans la tragédie qui font que les gens racontent la même histoire. En fait, les gens ont vécu la même histoire. En fait, et donc comment faire pour aussi, tu vois, il faut se poser la question de comment réussir à faire un film où s'il y a vraiment une place donnée au témoignage, d'avoir un réel cas par cas, en fait, parce que je pense que la question, enfin, parce qu'on a parlé avec beaucoup de réfugiés, évidemment, avant de se dire que non, il n'y aurait pas de place au témoignage, en fait, direct. Et même si à un moment, il y a un réfugié qui se place devant la caméra et qui se met à dire et à discuter, la seule différence, c'est que là, le choix est de ne pas sous-titrer. En fait, ce que je veux dire, c'est que le film déshabille le camp de ce contexte géopolitique, mais finalement, c'est pour, je trouve, mieux se rapprocher de ce qui se joue réellement dans ce genre de situation, en fait. Quand on arrive dans le désarroi et qu'il y a un système qui commence à se créer autour de nous et que très vite, ce système-là veut que l'on dépende de lui et que finalement, c'est les mêmes luttes qui se mettent en place, en fait. C'est vraiment les mêmes choses, sauf que je trouve qu'elles sont peut-être même plus justes que de les lier forcément à une situation de potentielle victime que pourrait avoir un réfugié. Je veux dire, forcément qu'un réfugié est une victime, il est victime de violences et de conflits, mais ce n'est pas seulement ça. Tu vois, il y a autre chose. Je pense qu'en débarrassant le film de ce contexte-là, on arrive à quelque chose d'aussi fort, en fait. Finalement, même peut-être plus synthétisé, je trouve. Je ne sais pas si
tu vois. Si, oui, c'est clair. Ouais. Ah ouais, je vois bien, c'est pissé. Ouais.
C'est ça aussi qui crée cette distanciation. Enfin, c'est vrai que moi, j'entends quand on nous dit le film est déshumanisé, on ne sait rien de ces gens. Mais finalement, un témoignage ou deux ou trois ne nous fait pas forcément, ne nous met pas non plus dans une connaissance parfaite de la personne. Tu vois, oui, il y a un témoignage ou pas. C'est poser un visage, en fait, mais pourquoi ce visage-là ? Pourquoi ? Mais alors que je trouve que moi, dans la tragédie en elle-même est très perceptible dans le film.
Ça, oui, et puis ça pose la question de l'humain dans ce que le camp en fait aussi. C'est-à-dire, il y a un côté déshumanisation, mais il y a un côté présence humaine qui en fait donc un personnage principal, qui est donc ce camp finalement, qui est une espèce de machine où l'humain est assez fantomatique, devient assez fantomatique, et en même temps, et pourtant on les voit tous bien. Présent dans ce quotidien, se faire happer par aussi ce camp qui devient de plus en plus monstrueux et donc l'humain ne disparaît pas. Enfin, j'ai pas cette sensation-là en tous les cas, loin de là, mais c'est vrai que peut-être que ce silence pour moi explique beaucoup plus, en dit beaucoup plus long que, enfin, en tous les cas, la manière dont il le fait, quoi, que pourrait le faire des témoignages, ou autrement, en tous les cas, différemment, peut-être.
Oui, et puis tu as la question pour moi, mais qui est un exercice délicat, je trouve, autant en tant que cinéaste que spectateur, puis même dans la vie en général, c'est comment tu regardes, je sais pas, une situation, des gens, des actions, sans rien connaître de personne, quoi, de qui il est, d'où il vient, et ça revient à la question... Comment tu regardes le monde et comment tu te bats avec ta façon idéologique de la regarder, politique ou poétique, et sans oublier qu'il faut que tu partes aussi de ce qu'il y a là et qui renvoie la question, tu parlais de victimes, où ils sont victimes, mais ils sont aussi souverains, quoi. Ils ont, quoi qu'il arrive, ils sont souverains, quoi.
Ouais, absolument.
Et ça parle. Et moi, ça me. Pour, en continuant ou en zappant. que je regarde leur passé, puis j'ai des questions que je veux poser. Mais comment on en ressort d'une expérience comme ça, à la fois en tant qu'être humain et aussi en tant que cinéaste, quoi. Qu'est-ce que, sachant qu'il n'y a pas de réponse, mais c'est pour... Il y a des choses qui bougent, quoi, sur comment j'ai envie de faire des films, puis comment je m'interroge sur comment je vis le monde, quoi.
Bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a raffermi un peu, enfin, un désir ou un pressentiment qu'on avait, c'était de faire des films différents aussi. C'est-à-dire, ça, enfin, cette liberté qu'on avait, cette sorte d'indépendance comme ça, de nous laisser happer par ce qu'on était en train de filmer, de construire le film lentement, enfin, en contact avec les gens, en contact avec la géographie, l'espace, le temps qui passe, l'ennui, etc. Ça apprend beaucoup sur effectivement comment faire des films. Et puis ça vraiment, en tout cas en ce qui me concerne, ça a affirmé un désir, une volonté de faire vraiment des films de manière, je dirais pas sauvage, mais de manière particulière selon les projets. Enfin, la manière de faire le film est aussi importante que, enfin, elle est aussi déterminante que d'autres choses dans le film, je crois. Enfin, c'est très, enfin, le geste de faire le film est quelque chose d'important, et je pense que, enfin, ce que j'ai compris avec Babylone, c'est que effectivement le geste de faire le film était partie prenante du film.
Oui, complètement. Oui. moi, je te rejoins là-dedans, parce que déjà c'est la première fois de ma vie où j'ai travaillé aussi confortablement, vraiment, quoi. C'est où on était vraiment ni tenu par une pression, ni même ni par des partenaires, ni par une deadline. Et donc ça, c'était des conditions très agréables de travail et même de recherche, quoi, de faire du tournage à un endroit où on peut encore chercher, tu vois, et ne pas arriver avec des idées qu'il faut absolument assouvir ou retranscrire. Et ensuite, voilà. Donc il y a cette vraiment logique de production qui là où je te rejoins complètement. Et puis moi, ça a ouvert toute une série de ribambelles de petites explosions comme ça, de questions de ouais, maintenant, enfin, justement, enfin, maintenant, enfin, j'ai l'impression vraiment dans ce film là il y a une grosse question qui s'est posée, c'est oui, enfin, comment faire des films, quoi, comment se placer pour faire un film. Et moi, c'est des choses que je cherche toujours, enfin, que le film m'a ouvert et que j'essaie de chercher toujours, par exemple le rapport à la fiction. Vu que là, c'est un film où la réalité n'est pas fictionnalisée, mais où elle est, moi, je dis toujours qu'elle est organisée. Donc, la fiction vient de là, en fait, de cette organisation, quoi, de la réalité, de blocs de réalité vraiment organisés, quoi, pour créer une narration, parce qu'il y a une narration dans le film. Et donc, du coup, c'était cette expérience-là, j'ai l'impression que là, c'est peut-être là aussi où réside d'une certaine manière la justesse de la fiction, tu vois, vraiment avec cette... petite friction qu'il existe avec le réel. Et donc ça, c'est intéressant. Je me dis, voilà, sur d'autres projets, j'aimerais arriver à me poser cette question-là, tu vois, mais du point de vue de la fiction cette fois-ci.
D'accord. Ok.
Et du coup, Youssef, toi, t'as des envies, même t'es en train de travailler sur un nouveau projet ?
Oui, oui, il y a des projets qui arrivent. Donc il y a un projet qui fait son chemin là dans les commissions qu'on espère avoir, enfin qu'on redépose là, et donc c'est on va dire un film produisable qui a ses chances en commission. Donc celui-là, on le laisse comme ça, on le laisse faire son chemin.
Il est au four, on
il est au four, ouais, voilà, ça dépend plus de nous.
Okay.
On est tranquille.
D'accord.
Et maintenant, c'est ceux qui posent problème, ceux, qu'on... ceux qui, qu'il faut faire avec peu ou rien. Et bon, ça va se faire quand même. Moi, du coup, je mets aussi une patte dans la production. Avec un ami, on va coproduire son film qui se tourne dans le sud de la Tunisie. Et un film donc, qui sera entre fiction, roman photo et du documentaire aussi. Enfin, un début en roman photo, ensuite c'est un docu-fiction. Et qui va être tourné en Super 8. Donc on essaye de pareil, vraiment, d'élargir le cercle des collaborations pour réussir à faire le film. Là, par exemple, ce qui est bien, c'est que là, on a réussi à trouver des gens qui étaient intéressés par le projet et qui travaillent dans des labos de développement et qui, par exemple, voilà, on a tout le développement d'acquis déjà, tu vois.
Vous êtes fortiche, les mecs. Hein.
C'est des labos qui se situent en...
C'est des labos, enfin, moi, j'ai mon ami qui travaille, qui est à...
À l'Etna.
À l'Etna, ouais. Elle travaille à l'Etna, enfin, elle est avec eux, donc elle s'est chargée de développer une partie des copies, enfin, des bandes de Super 8. On a réussi du coup à voir les images et c'est aussi là-dedans, enfin c'est en voyant ces images-là qu'on s'est dit ouais, il va y avoir vraiment un film à faire et donc du coup on va essayer, on ne sait pas encore où le développement se fera ici ou hop, en France ou sinon peut-être que on ramènera du matériel pour développer sur place et ensuite voilà, enfin il faudra que en tout cas on va essayer d'aller jusqu'au bout du film et ensuite monter des dossiers comme tu vois, comme ça se fait quoi pour la finition etc.
Alors t'as après développé en Super 8, tu sais?
Non, pas encore.
Il y a parti mettre. Hein.
Non, non, moi j'écris les scénarios. Enfin,
ok. Et toi, Ismaël?
Ben, en ce moment, on a plusieurs films, oui, sur le qu'on est en train de faire, dont notamment, enfin, notre premier projet de long métrage de fiction qu'on a coproduit avec quatre autres sociétés. Et puis c'est voilà, c'est une étape importante, quoi. Parce que c'est la forme la plus, enfin, la plus usuelle, la plus...
Le long métrage de fiction.
Le long métrage de fiction, oui. C'est, et puis, c'est, ce qu'il y a d'important aussi, c'est que enfin, c'est pratiquement le premier film de cette nouvelle génération de cinéastes qui vont à un moment passer au long métrage de fiction. Mais celui-ci, ce sera le premier, en fait. C'est pratiquement le film de toute une génération comme ça, de réalisateurs, techniciens, etc., qui là vont passer au long métrage de fiction et donc c'est un moment important aussi pour nous.
Et qu'est-ce qu'on peut dire justement, je saisis la perche sur le cinéma qui se fabrique en Tunisie pour quelqu'un qui n'y connaît pas beaucoup quoi, parce qu'on voit quelques films sur les écrans nationaux, mais pas beaucoup je crois, même pas, si. En tout cas on voit des films pas très bons non plus. Bon voilà, donc c'est une première réponse. Après il y a pas mal de films qui tournent dans les festivals quand même, quelques-uns.
Oui, il y a des films qui tournent dans les festivals quand même chaque année. Je crois que là, il y a, pour moi, c'est peut-être des festivals aussi. Enfin, par exemple, les rencontres ici d'Aflam, les rencontres cinématographiques d'Aflam. Là, j'ai vu quand même dans les trois dernières éditions, il y a pas mal de films tunisiens. Mais en dehors de ça aussi, mais c'est souvent bon dans des festivals dédiés au cinéma africain, au cinéma maghrébin.
Encore dans des cases un peu.
Mais ensuite, il se passe beaucoup de choses intéressantes. Mais après, c'est vrai que pour avoir un point de vue, se faire une idée sur le cinéma tunisien, il faut aller le chercher en fait encore. Tu vois, il faut vraiment. Ouais. Il existe. Il y a vraiment des bons films qui. Je pense que voilà, là, le film de Harley va arriver, ça va ouvrir beaucoup d'envie en tout cas d'aller vers le long et là c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose d'intéressant à suivre qui était déjà installé dans les courts-métrages et mais il faut quand même aller fouiller parce que bon déjà les films ont énormément de mal à être distribués. Si les films ne disposent pas d'un financement ou d'un cofinancement français, ils n'ont aucune légitimité à sortir en salle ici. Donc tu vois, c'est le parcours est assez difficile pour arriver à... Enfin voilà, si un spectateur a envie de découvrir le cinéma tunisien, encore une fois, il faut qu'il aille fouiller. Quoi.
Ouais, la grande question de la diffusion qui se pose en Tunisie et ailleurs, on en discutait avec Tarité Guilla lors d'une projection récente de son dernier film. Et du coup, on était au Gyptis, c'est vrai qu'on était une trentaine. Et donc forcément, il râlait de ouais. Ça. Quoi. Et donc du coup... avec Lolo aussi, bien sûr qu'on a évoqué ces questions-là à l'antenne, mais pas qu'à l'antenne, bien sûr, avec des idées aussi de comment voyager avec les films. Bon, Babylone, il a pas mal circulé, a toujours la chance en tous les cas, d'avoir un prix en festival et de pouvoir faire un petit peu décoller en diffusion dans d'autres festivals le film. Comment vous y prenez-vous pour le reste des films sur lesquels vous travaillez ou avec lesquels vous êtes en production, sans qu'il y ait forcément toujours ces histoires de petits coups de pouce de prix de festival?
On envoie des copies et puis tout simplement, quoi. On n'a pas vraiment un réseau de diffusion extrêmement comme ça étendu, mais on essaie, quoi.
Mais c'est pas un truc qui se colle à la production, ça, par exemple, l'envie de c'est pas facile en même temps, parce qu'il faut qu'il y ait des endroits de diffusion aussi, c'est surtout ça le problème. Mais comment on peut voyager en Tunisie avec des films? Est-ce que c'est possible ou pas, en dehors du fait qu'il y a quasiment pas beaucoup de cinéma, quoi, ou peu, ou très peu, ou pas?
Très peu de salles, oui, très peu de salles. Alors, le film Babylone, il est sorti en salle, mais encore une fois, comme on le disait tout à l'heure hors micro, enfin, Babylone a aussi eu la chance de passer la première fois au FIT, d'obtenir le Grand Prix, ce qui a créé une curiosité comme ça un peu importante autour du film. C'est ce qui lui a permis aussi de passer en salle en Tunisie. Il est sorti en salle, mais pour les autres films, c'est plus compliqué. Pour le film, par exemple, qu'on verra demain ici au Vidéodrome, Echo en Casa, qui est terminé depuis un an et demi maintenant, et il fait il est pratiquement pas diffusé. On l'envoie un peu partout dans le monde, mais
il est pas sélectionné, on va dire, dans les festivals, en fait, tu veux dire.
Oui.
Mais trop, ce qui fait, non, que vous avez pas... Donc en Tunisie, il y a pas d'autres réseaux que les salles officielles? Il y a pas de...
Oui.
Il y a pas d'autres réseaux que ça,
pas, quoi. Vraiment, non. Il y a les ciné-clubs. Ouais. Les ciné-clubs, enfin la Fédération tunisienne des ciné-clubs, qui est la sœur un peu de la Fédération tunisienne des cinéastes amateurs dont on parlait tout à l'heure.
Et eux, ils diffusent un peu des cinéma contemporain, jeune, expérimental.
Un tout petit peu, puisque enfin, ce qu'il faut dire par rapport à la FTCC, c'est que traditionnellement, c'est une structure d'extrême gauche, d'une extrême gauche assez... assez comme ça, assez social et radical, et qui a une idée très très précise de ce qu'est un film, de ce qu'est le cinéma, et du coup, enfin, ils sont plus intéressés par les films à portée sociale comme ça, politique, idéologique, militante, plutôt que dur sur des expérimentations comme ça qui pour eux sont bourgeoises, quoi. Enfin, c'est des pratiques bourgeoises. Donc on est un peu, enfin, ils commencent un peu à sortir de ce carcan là. Effectivement, petit à petit, d'ailleurs après la révolution, bizarrement, mais puisque justement, peut-être que effectivement c'était un peu légitimé par la dictature, quoi. C'était un espace aussi quand même de liberté, les ciné-clubs en Tunisie, ça c'est quelque chose d'indéniable, mais voilà, enfin, ils se sont un peu laissés enfermer par ça, et après la révolution, enfin, ils ont eu, en tout cas à mon sens, ils ont eu l'intelligence d'ouvrir aussi sur d'autres films, d'autres réalisateurs, d'autres programmations, enfin, sur le surréalisme par exemple, sur des choses comme ça. Ils ont fait par exemple dernièrement, il y a quelques mois, une programmation sur le surréalisme assez intéressante qu'ils n'auraient jamais fait il y a 10 ans par exemple.
D'accord, oui, c'est intéressant, donc, comme déplacement.
Oui. Ils sont bourgeoises un peu.
Non, mais parce qu'il y a quand même, ce clivage là que tu exprimes, c'est un clivage qu'on retrouve un peu partout aussi, au-delà d'une territorialité, quoi. La question des films qui... On les catégorise, puis même les gens se catégorisent avec les films, même certains réalisateurs. Moi, il y a tout quelque chose de complexe là-dessus. La porosité entre les formes cinématographiques n'est pas si évidente que ça, quoi.
Après, pour moi aussi, enfin, la forme est aussi porteuse du politique, quoi. Enfin, il n'y a pas que le propos qui...
Non, mais ça, c'est évident. Mais en attendant, il y a... Tu vois, moi, je partage aussi, mais en attendant, ce clivage perdure d'année en année. Je veux dire, tu as toujours ce clivage entre... Alors, ça veut dire quoi? Ça me fait penser le clivage entre artistes et militants. Pour moi, d'un point de vue humain, mais dans la forme, c'est ça, oui, entre les films qui disent quelque chose par le sens, et puis les films qui disent quelque chose par autre chose que le sens. Et là, t'as toujours, ça perdure ce clivage, quoi. Ça me surprend toujours, quoi. Et je sais pas, j'arrive pas à quoi en penser, parce que pour moi, il y a pas une forme qui vaut plus qu'une autre. Quoi, tu décides de t'exprimer par une forme, qu'elle soit militante ou pas, c'est un choix que t'as fait, quoi. Après, elle est reçue, elle est pas reçue, on en discute, quoi. Mais donc
peu de réseaux de distribution, de diffusion en Tunisie.
Oui, c'est même quelque chose qu'il faut complètement créer, en fait.
Mmh. Oui, il y a pas de café ou de bar où on peut créer des petites projections successives.
C'est trouvable, si ça existe, mais tu vois, c'est pas quelque chose qui peut accompagner la sortie d'un film. Tu vois, c'est pas quelque chose qui permet à un film d'être vu assez de public et par assez de monde. Enfin, comme disait Smaïl, il y a quelques années, il y avait pas d'école de cinéma. Là, il y a des écoles de cinéma, mais la distribution n'est pas enseignée, la diffusion n'est pas enseignée. Tu vois, tout le monde fait image ou réalisation ou écriture, je pense. Mais il n'y a pas encore de souci de vraiment. Il faut créer le métier, en fait. En Tunisie, vraiment, à ce point-là, parce qu'il y a toujours une manière.
Le métier de diffuseur ou de distributeur.
Et le réseau, en fait.
Il y a beaucoup de gens qui font des films, mais il y en a très, très peu qui veulent les montrer, quoi. Peuvent les montrer ou qui ont des espaces pour les montrer.
Il a circulé aussi dans le reste du Maghreb. Est-ce qu'en Algérie,
il est passé en festival, oui. Enfin, il est sorti en salle qu'en Tunisie, aucun autre pays. Mais il est passé plusieurs fois au Maroc, plusieurs fois en Algérie.
Et comment ça se passe, les relations justement entre cinéastes du Maghreb? Est-ce que justement ça se croise? Vous vous croisez beaucoup, j'imagine, lors de festivals ou de...
Ouais. Mais déjà, les trois pays du Maghreb dont on parle maintenant, puisque le Maghreb c'est cinq pays.
Ouais.
Mais ces trois-là, ils ont des situations différentes. Disons que l'Algérie et la Tunisie ont une situation très différente de celle du Maroc. C'est-à-dire le Maroc, à un certain moment, par la volonté du frère du roi, qui est apparemment très cinéphile, ils ont eu comme ça une politique très volontariste vis-à-vis du cinéma, avec beaucoup d'argent, une institutionnalisation comme ça du cinéma, avec des multiplex, beaucoup plein de films étrangers, etc., qui se tournent au Maroc. Le festival de Marrakech qui a été créé, c'est devenu un gros festival. Or, en Tunisie, en Algérie, c'est une situation différente. C'est une situation qui se rapproche l'une de l'autre. Et du coup, on a plus tendance à rencontrer des gens, des nouveaux cinéastes algériens que marocains, quoi. Les Marocains sont tout de suite dans un truc très, comme ça, très professionnel, industriel,
du cinéma, etc.
Oui. Et moins le do it yourself, de débrouille-toi en autonomie, est moins développé au Maroc, quoi.
Voilà, exactement. Parce que lieu de tournage qui a été pas mal récupéré par les grosses productions étrangères aussi dans le sud de Ouarzazate, tout ça, etc.
Ouais. Et par volonté aussi politique de développer cet aspect-là du cinéma.
De lier le cinéma au tourisme, etc.
Voilà, et à l'industrie, etc., etc. Ouais. Et du coup, on a plus de facilité à rencontrer, à dialoguer avec des réalisateurs algériens. Enfin, plus de facilité dans le sens où on se rejoint plus, quoi, dans nos démarches, dans notre manière de penser le cinéma, de le faire, que avec des réalisateurs marocains.
Est-ce que tu crois que c'est lié aussi à l'histoire des deux pays aussi ou
Je pense pas, non, je non. pense pas. Non, je pense pas. Je pense juste que voilà, cette institutionnalisation au Maroc, elle a peut-être des bons côtés, mais elle a surtout, surtout le côté négatif qui est l'uniformisation, des points de vue, des formes, des propos, etc., etc.
Trop vite même, en fait, alors qu'il n'y avait pas encore quelque chose de vraiment d'un cinéma qui avait un sens appuyé, et puis...
Il y a eu un petit moment, mais qui n'a pas duré longtemps, quoi.
Très vite, cette logique des gros films, parce que voilà, il faut bien que les productions marocaines suivent, en fait.
Puis le cinéma en tant qu'industrie, quoi, tout de suite, avec ses catégories, ses hiérarchies, ses budgets énormes.
Et ses multiplex.
Et ses multiplex, voilà. Bon.
Eh ben, on se rapproche malheureusement de la petite fin de cette émission.
Voilà.
Déjà
On nous a dit que ça allait passer vite.
Voilà,
et ça a passé vite.
Alors,
qu'est-ce qu'on dit? Déjà, il faut annoncer certaines choses.
On se voit demain.
On se voit demain.
Pour les Marseillais.
À quelle heure?
Au Vidéodrome à 20h30.
Vous pouvez dire peut-être deux mots sur ce qui, ce qui va être projeté.
Alors, la première partie de la séance, ça va être un court-métrage que j'ai réalisé qui s'appelle Les Profondeurs. Un film que j'ai fait en 2012-2013. Non, c'était juste après Babylone. C'était
2012.
Fin 2012. Oui, c'est ça, oui, fin 2012. Et qu'on a tourné une partie en 2013. Et donc voilà, c'était mon deuxième film, mon deuxième court-métrage. Et c'est une sorte de vampire, l'histoire d'un vampire qui revient mourir en Tunisie. Voilà, pour en dire deux mots.
Et puis en seconde partie, il y aura Hecho en Casa. C'est un titre espagnol d'un film tunisien. Il veut dire littéralement fait maison. Quoi. Encore l'idée de faire les choses soi-même. Et il porte bien son titre puisqu'il a été tourné sur 4 ans entre 2009 et 2012, début 2009 et fin 2012, entre l'Espagne et la Tunisie avec un téléphone portable en fait. C'est un ami qui s'appelle Belhassan Handous qui faisait partie de la FTCA, la Fédération Tunisienne des Cinéastes Amateurs, il y a 10 ans, et qui s'est un peu éloigné du cinéma, mais avec l'envie, toujours une envie incessante de faire des films. Et en 2009, donc, il est étudiant en Espagne, il s'achète un téléphone portable avec une caméra dessus, et il commence à filmer. Et voilà, au bout de 4 ans, ça donne un objet comme ça, une sorte de journal intime comme ça, mais très, très singulier, très particulier. Quoi.
Alors vous allez être là demain soir avec nous pour présenter les films.
Et on parlait après, éventuellement.
Et on parlait après. Lolo, tu veux rajouter quelque chose avant qu'on lance une petite musique?
Non. Non, je vais juste rajouter, je fais un petit peu de com. Là, il y a un collectif de cinéastes qui fait des films en Super 8, qui vient projeter les films le 12, 13, 14 juin. Le collectif s'appelle Les Scotcheuses. Donc, ils font des projections le vendredi soir à La Rouille, le samedi soir à l'Embobineuse et le dimanche au Jardin de Gibraltar. C'est un collectif de 20 personnes qu'on tournait pendant un an à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Voilà. Et la prochaine émission en août, je ne sais plus quelle sera, autour de ce collectif. Voilà, et puis en tout cas, merci beaucoup
d'être
venus. Merci à ceux qui ont écouté. Puis on se termine par un petit morceau de musique qui va être...
C'est un ami qui s'appelle Andy. Et donc son nom d'artiste est Seabook Thorn. Et donc là, c'est un nouveau morceau de son album qui sort sur Bookmaker Records.
Voilà.
Faut aller voir.
Voilà. Merci Sonia, merci à vous. À bientôt.
Ça roule, c'est parti.